Ce podcast a été réalisé à partir de l'enregistrement du webinaire organisé par GPS Cancer le 23 juin 2023 sur le thème Cancer et travail avec l'intervention du docteur Bruno Vincent, responsable d'une équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs et de douleurs du cancer.
On va venir directement à notre sujet, qui est le grand sujet de cancer et fatigue. Et on va commencer par le docteur Bruno Vincent qui va vraiment nous planter le décor. Parce qu'on parle souvent de la fatigue, mais c'est quoi la fatigue en fait, hein? C'est quoi? Comment ça se déclare? Qu'est-ce qui fait qu'on se sente fatigué lorsqu'on est atteint d'un cancer? Donc, je vais partager en même temps l'écran pour que vous puissiez voir aussi cette présentation. Et je laisse la parole à Bruno. Peut-être Bruno, dans ces cas-là, tu me diras à quel moment tu veux que je change les slides.
D'accord, très bien. Écoutez, je suis ravi de participer à cette réunion, vous apporter un petit peu de mon vécu de tous les jours et puis de vous faire un peu une revue de la littérature sur le sujet. Je remercie en particulier Françoise de m'avoir invité, GPS Cancer et tous ses membres. Et puis, je suis ravi de retravailler aussi avec Éléonore qui va compléter avec sa double expérience ce que je pourrais vous apporter. Comme on vous a dit, hein, je suis un médecin et responsable d'une équipe mobile de soins palliatifs et qui est aussi en charge de la douleur du cancer dans l'hôpital Beaujon à Clichy, en région parisienne. Un établissement qui fait partie de l'APHP de Paris et qui est un centre d'expertise de maladies digestives et la plupart du temps des maladies oncologiques. Voilà, donc c'est un peu mon quotidien de rencontrer les personnes malades d'un cancer et de les prendre en charge en même temps, très souvent, très en amont d'une prise en charge un peu habituelle en soins palliatifs. On essaie de développer avec les oncologues des prises en charge les plus intégratives possibles pour accompagner les personnes malades et leurs proches tout au long de leur parcours de santé. Voilà, essayer de faire un bout de chemin avec eux, d'essayer de les aider sur tous les plans et en particulier sur le sujet sur lequel on s'intéresse aujourd'hui. Donc, la fatigue. Alors, c'est l'asthénie hein, en langage médical, mais voilà. En préambule, je voulais vous dire que c'est un symptôme qu'on rencontre tout le temps et c'est vraiment quelque chose que les personnes malades nous font part quasiment en permanence de cette fatigue qui les accable et qui influe sur leur quotidien. Alors, quand on fait un peu de littérature, j'ai pris des littératures de langue anglaise, mais vous verrez qu'on a choisi aussi, grâce à Éléonore, une littérature française. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est que c'est un des symptômes les plus pénibles hein, dans la prise en charge des malades atteints de cancer. Et ça se retrouve tout le temps, à toutes les phases du traitement, quel que soit le stade de la maladie. Soit au début, pendant le cancer, si le cancer guérit après le traitement et la guérison du cancer, on le retrouve vraiment très, très, très souvent. Et c'est souvent le premier symptôme hein, que les personnes malades ressentent. Voilà, c'est souvent, ça revient souvent sur ce thème. Au moment du diagnostic, il y a quand même 40% des patients, des personnes malades qui s'en plaignent. Bon, c'est quand même assez conséquent. On peut passer à la diapo suivante. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment la fatigue hein? Si on prend une définition générale, vous voyez, c'est un sentiment subjectif. Ça n'appartient qu'à la personne qui le ressent, hein, qui est pénible, persistant. On ressent un épuisement physique, mais aussi un épuisement émotionnel et cognitif. C'est-à-dire qu'on est tellement fatigué qu'on ne fonctionne plus normalement. Alors, c'est lié soit au cancer lui-même, soit au traitement. Et c'est absolument pas lié à l'activité que l'on peut faire, en particulier l'activité récente. On aurait tendance à dire, bah voilà, j'ai beaucoup fait l'activité, je me suis beaucoup activé, j'ai eu pas mal d'examens, je suis venu à l'hôpital, j'ai fait un tour chez moi dans le jardin. Et pourtant, même quand on ne fait rien, on est fatigué. Voilà. Et ça interfère beaucoup hein, sur son degré d'autonomie. La durée, la fréquence, tout ça, c'est très variable. Ce qu'on voit par contre, et ce qui est très important, c'est la prévalence, c'est-à-dire l'incidence du symptôme dans le quotidien de la personne malade. Ça va de presque 60% jusqu'à 100%. Donc, c'est extrêmement conséquent.
Ça veut dire, pardon Bruno, ça veut dire que le taux de prévalence, ça veut dire que les patients, c'est 60% ressentent ça tous les jours ou est-ce que c'est sur un temps
Alors, c'est un temps donné, hein, c'est, la prévalence, c'est un temps donné. Mais déjà, c'est quel que soit le moment, la prévalence, c'est celle-ci. C'est-à-dire que pendant la durée d'un cancer, ça peut être de 60 à 100% présent. Voilà. Ça peut être un séquel en long terme aussi. Hein, quand on regarde après le traitement du cancer, quand on est guéri ou en rémission, la prévalence, là, elle peut atteindre 30%. C'est-à-dire qu'on peut être atteint de fatigue après cette période, et ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, c'est quand même 10 ans après la fin de la maladie. Voilà, on va passer à la diapo suivante. Alors, en général, ça augmente pendant le traitement de la maladie, et c'est plutôt à la tendance à diminuer par la suite, mais ça peut persister. Et souvent, au-delà d'un an. Voilà. Ce qu'on sait aussi, et ce qui est remarqué dans la littérature, c'est que c'est plus sévère lorsque les personnes ont une chimiothérapie ou alors une chimiothérapie plus une radiothérapie en même temps. Et un peu moins pour les personnes qui n'ont qu'une radiothérapie. Ça, c'est les données de la littérature, les données des études. Concernant les nouvelles thérapies, parce que beaucoup de cancers maintenant se traitent soit par immunothérapie, thérapie ciblée, hormonothérapie. C'est surtout l'association hein, des thérapies qui fait qu'on est plus fatigué. Hein, ça va de 12 à 37, voire jusqu'à 71% en fonction des associations qui sont faites entre les différentes thérapies. Et puis, on remarque maintenant que l'immunothérapie fait quand même beaucoup partie des traitements pour pas mal de cancers. C'est que lorsqu'il y a une association avec un trouble endocrinien, diabète, thyroïde, hypothyroïdie et tout ça, c'est l'asthénie beaucoup plus marquée. Voilà.
Et on sait pourquoi ?
C'est des traitements qui sont relativement récents, donc il n'y a pas énormément d'études. On sait que plus on associe des symptômes ou des maladies ou des traitements, on augmente forcément les retentissements, que ce soit les effets secondaires si c'est une thérapeutique ou les symptômes comme la fatigue. C'est l'accumulation de tous les de toutes les données qui font qu'on est plus fatigué. On va passer à la suivante. Alors, il y a une chose aussi que l'on sait, c'est que en matière de prédicteur, c'est-à-dire qu'on pense souvent que la fatigue va être beaucoup plus présente si on associe un mauvais état général, une perte de poids, et un traitement par opioïde, par morphine ou autre. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans la littérature. Donc, c'est une tendance assez forte. La diapo suivante.
Ah.
OK.
Ça y est. Allez. Est-ce que c'est passé trop vite? Je n'avais pas une avant? Est-ce que j'ai appuyé deux fois?
Regarde.
Attends, je reviens un peu en arrière, parce qu'il a l'air d'avoir une petite lenteur. Ça a l'air de... Ça ne veut pas bouger.
OK.
C'était... Il y avait autre chose avant?
Je ne l'ai plus en mémoire.
Non, c'est la bonne diapo, Françoise. Bah
c'est alors, la bonne diapo. On bouge pas sur celle-là.
OK, très bien. Alors, pour essayer d'éclaircir un peu le symptôme de la fatigue, la fatigue, elle est pas, c'est pas quelque chose qui est unicite. Hein. On voit en particulier là sur la diapo que vous avez devant vous, on voit qu'on peut évaluer la fatigue des patients, et c'est en général ce que font les équipes d'oncologie, c'est qu'elles évaluent cette fatigue avec des outils. Et en particulier, il y a deux outils qu'on utilise pas mal, et à l'international, c'est celui que vous avez sur votre gauche qui est le plus utilisé, les ORTC, où on demande à la personne malade d'essayer de qualifier un peu son type de fatigue avec une échelle de Likert qui va de 1 à 4, pas du tout, ce qu'on ressent pas du tout, un peu assez beaucoup, et plusieurs items. Donc, vous voyez, il y a une douzaine d'items qui vont essayer de cerner quelle modalité de fatigue on ressent. Voilà. Et vous voyez qu'on a des pavés, en fait, qui sont plus centrés sur un questionnaire qui va essayer d'explorer la fatigue physique. Comme je disais tout à l'heure, hein, il y a quand même trois états de fatigue physique, émotionnelle, en trois questions, et une fatigue cognitive. C'est-à-dire qu'on est tellement fatigué qu'on a du mal à réfléchir, qu'on a du mal à se positionner. L'autre échelle est un peu plus simpliste, mais en tout cas, celle qui est intéressante, là, les ORTC en 12 questions, ça permet quand même de cerner un petit peu qu'est-ce qui est un peu plus présent ou moins présent. Voilà. Et ce que l'on fait, c'est que plus vous avez un score élevé, plus on sent que la fatigue est grave, et on va peut-être plus se centrer sur ce symptôme. Voilà. L'échelle suivante.
Des difficultés à faire passer les slides.
Remettre.
Je vais arrêter le partage et je vais recommencer. Peut-être que ça sera plus facile. Donc,
on était à la diapo 6.
Alors, qu'est-ce qui fait que... voilà, on peut passer sur la 7. Hein. On essaie de chercher hein, l'origine un peu plus précise et là, de façon un peu plus poussée avec des examens biologiques, des tests en laboratoire et tout ça pour savoir d'où vient vraiment cette fatigue. Et voilà, ce qui ressort un peu, c'est que ce serait un phénomène d'inflammation chronique hein, dû à la maladie cancéreuse qui déverserait dans le corps des facteurs inflammatoires et qui provoquerait des conséquences sur l'état de santé de la personne. Ce qu'on pense, c'est que ça commencerait a priori sur les muscles squelettiques, et notamment en raison d'une baisse progressive de l'activité physique. Hein. Quand on se sent fatigué, on n'a pas envie de bouger, et c'est un peu un cercle vicieux, hein. on ne bouge plus, et puis on réduit son activité physique au fur et à mesure. Et puis au niveau cérébral aussi, on pense qu'il y a quelque chose là qui est dysrégulé, qui ne fonctionne plus très bien à cause de l'inflammation et qui change la perception de ce sentiment de fatigue. Voilà.
Bruno, est-ce que je peux vous poser une question juste pour éclairer les personnes qui nous écoutent. Déjà, pour le phénomène inflammatoire, c'est vrai que ça a été beaucoup étudié. Hein, c'est les célèbres cytokines dont on parle,
oui.
C'est ça, hein,
oui.
Voilà, qui font leur boulot de lutter contre les cellules cancéreuses. C'est pour ça que quelquefois, on ressent une très forte fatigue, même sans avoir… Déjà, le diagnostic du cancer, hein, c'est voilà, ces cytokines qui se mettent en branle vont un peu inflammer, avoir ce rôle inflammatoire et conduire à une certaine fatigue. Et deuxièmement, est-ce que vous pourriez réexpliquer ce que sont les muscles squelettiques ? Pourquoi ils vont un peu nous empêcher après de bouger ? C'est quoi les muscles squelettiques ?
Les muscles squelettiques, c'est ce qu'on a autour des os, en fait. Et c'est ce qui est relié aux tendons et qui permet de mobiliser tous nos membres et pouvoir s'en servir. En fait,
c'est important ce que vous dites parce que après, les conséquences vont être importantes dans la vie de tous les jours, dans le fait de marcher. Voilà, mes muscles squelettiques qui me permettent de faire l'action, de lever la jambe quand je vais monter un escalier ou d'attraper mon bocal de pâte dans mon placard en levant le bras, ben, mes muscles squelettiques, forcément, ils vont réduire avec la maladie.
Exactement. On va passer à la suivante. Alors, souvent, j'imagine bien le vécu des personnes malades devant les équipes d'oncologie qu'ils rencontrent, devant l'oncologue en consultation. La plupart du temps, on a l'impression que les professionnels de santé ne sont pas du tout sensibles à ce symptôme. Alors, il y a plusieurs raisons. Un médecin tunisien qui avait publié un article qui disait en titre « L'asthénie en oncologie, un symptôme marginalisé par les oncologues et handicapant silencieusement les cancéreux ». Ben, je pense que c'est assez vrai hein, pour ceux qui le vivent. Alors, ce n'est pas que les oncologues sont insensibles, hein, mais ils sont extrêmement dépourvus parce qu'il y a peu de choses qui puissent marcher, notamment dans les thérapeutiques médicamenteuses. Il y a eu pas mal d'essais. Alors, je ne vous ai pas fait le panorama de tout ce qu'on a pu tester pour essayer de modifier la fatigue ressentie par les personnes. En fait, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Et on verra après qu'il y a d'autres choses à faire que de prendre des médicaments. Et du coup, tout le monde est un peu frustré hein, de la part des équipes soignantes, des patients. On est un peu déçus, il n'y a pas beaucoup de réponses à apporter. On ne contrôle pas trop le symptôme. Et pour autant, c'est hyper important quand même de l'évaluer systématiquement. Hein, une fatigue légère, moyenne ou forte, c'est quand même à prendre en compte. Alors, il y a des moyens très, très simples hein, à utiliser. On peut utiliser comme une échelle de douleur, hein, une échelle numérique et se dire à combien on est fatigué là maintenant, la semaine dernière, globalement. Voilà, pour donner aussi des pistes aux médecins qui prennent en soin les personnes malades. Et puis après, si on veut approfondir, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a des échelles un peu plus précises qui vont permettre d'évaluer les différents symptômes, les différentes pistes. Voilà, on peut passer à la suivante.
Oui, avant de passer à la suivante, je me disais que pour les personnes qui ont déjà connu cette fatigue pendant la maladie, peut-être que vous pourriez mettre aussi des commentaires dans le chat, pour dire si on vous a évalué la douleur, pour qu'on puisse partager ensuite.
On va passer à la suivante.
Voilà, le projet de soin du malade fatigué.
Exactement. C'est hyper important d'en parler, hein, déjà avec les professionnels de santé. Déjà pour que les professionnels puissent reconnaître hein, ce symptôme et y être attentifs. Alors, en général, voilà, ils le sont attentifs, mais c'est bien aussi d'en parler, c'est bien aussi de l'évoquer, de le décrire. Voilà, ça permet aussi au personnel d'essayer de trouver des causes possibles, essayer d'agir sur ces causes, de proposer aussi un éventail de stratégies pour essayer d'améliorer la fatigue. Et puis, le professionnel qu'on va avoir en face va tenir compte, bien sûr, de l'âge de la personne, de la gravité de la fatigue, des préférences de la personne qu'on a en face. On ne va pas proposer n'importe quoi à une personne qui ne va pas adhérer au projet de soins, tenir compte des expériences ultérieures et puis d'évaluer de façon précise et surtout régulière le symptôme de la fatigue. Et puis, il y a des groupes de soutien qui peuvent aider aussi. Voilà, GPS Cancer en fait partie. Aider les personnes fatiguées, mais aussi leurs proches, parce que ça retentit bien évidemment à la fois sur la qualité de vie de la personne malade, mais aussi les proches. On va avancer, si vous voulez bien. Alors, souvent, il y a un grand sentiment de culpabilité. Après le cancer, tout doit aller bien. Il n'y a pas de raison d'aller moins bien, on est guéri, on va mieux, on est en remission et on pourrait se considérer que tout est fini. Or, non, hein, on le sait très bien, il y a beaucoup de choses qui se passent après la maladie, après la fin de la prise en charge thérapeutique ciblée du cancer, et la fatigue en fait partie. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, ça, on peut avoir des symptômes 10 ans, jusqu'à 10 ans après. Donc, c'est quand même assez important. Là, c'est issu d'une étude qui s'appelle VICAN, qui a été faite en France par l'INCa, hein, l'Institut National du Cancer. Ils avaient fait une étude quelques années auparavant qui s'appelait VICAN 2, où ils étudiaient les symptômes 2 ans après le cancer, et ils ont continué à faire cette étude sur le suivi 5 ans après. C'est une étude très, très importante qui a pris à environ 4000 malades, donc extrêmement conséquente. Et sur VICAN 5, je crois qu'il y a à peu près la moitié des patients qui avaient été interrogés sur VICAN 5, sur VICAN 2, qui l'ont été sur VICAN 5. Et qu'est-ce qu'on voit sur VICAN 5? Donc, 5 ans après la fin et la guérison de la maladie, il y a encore près de 48% des personnes en rémission ou guéries qui souffrent de fatigue. Donc, c'est proche de la moitié.
Ouais.
Ce qu'on voit aussi, c'est que ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, 56% versus 38%, donc c'est quand même conséquent. En plus, chez les plus jeunes, hein, les moins de 25 ans, et il y a un facteur aussi important, c'est pour les personnes avec une précarité sociale. Et ça joue aussi. Et puis, en fonction de la pathologie initiale, hein, du cancer initial, on voit que là aussi, il y a des disparités. Hein, souvent, le cancer de l'utérus donne beaucoup plus de fatigue à 5 ans qu'un cancer des voies supérieures digestives. Voilà. Et ce qu'on remarque aussi dans cette étude, c'est qu'il y a presque 45% des personnes interrogées qui ont une qualité physique dégradée. Donc, c'est quand même assez conséquent. Voilà. On va avancer. Alors, qu'est-ce qu'on dispose qui nous permet d'améliorer un peu le phénomène de la fatigue? Alors, il faut, pour les soignants, il faut vraiment explorer tout le corpus pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose quand même, hein, parce qu'il y a quand même des facteurs qui contribuent la fatigue, en particulier la douleur, les troubles de l'humeur, voilà, toutes les symptômes associés comme de l'anémie, une infection, une malnutrition, les maladies thyroïdiennes, les maladies cardiovasculaires, pulmonaires, tout ça concourt quand même à majorer les phénomènes de fatigue. Aussi aller chercher du côté des autres maladies qui sont en cours, être sûr qu'elles sont bien équilibrées, qu'elles sont bien prises en charge, aller rechercher aussi sur les antécédents anciens ou présents, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, de la dépression. Ça aussi, ça majore. Hein. Vous avez vu dans l'échelle que je vous ai présentée, le ORTC, on retrouve quand même pas mal d'items, quelques questions qui explorent hein, la sphère de l'humeur. Et puis, là aussi, il va falloir aller chercher du côté du social, du côté de l'environnement familial, social, amical, les finances, enfin, toute cette sphère-là qui va concourir. Et vous avez vu dans 24-5 que la précarité ajoutée à la fatigue. Voilà. Donc, il faut explorer quand même de façon large hein, le symptôme de fatigue. Voilà. Et après avoir fait ça, ben, on peut passer peut-être à autre chose. On va passer à la slide suivante. Et ce qui marche quand même vraiment bien, alors il y a toutes les techniques complémentaires comme l'acupuncture, l'hypnose, la sophrologie qui vont aider quand même au bien-être et à la gestion de certains symptômes. Il y a quelque chose qui fonctionne, et là, dans la littérature, on le retrouve vraiment, c'est l'activité physique adaptée à la personne. Oui. Et là, c'est, on va, alors je laisserai la place à Eleanor, qui est plus experte que moi sur ce type de prise en charge, mais en règle générale, ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer le bien-être de la personne, faire des exercices qui soient suffisants pour réentraîner le corps à fonctionner. Et puis, il y a des programmes qui vont être adaptés, bien sûr, à la personne et à son appétence et à ses besoins et ses envies. Voilà. La diapo suivante. Et justement, ben, je vais laisser la place à Eleanor et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions par la suite parce que je pense qu'on aura des questions, des réponses à donner tous ensemble.